Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères et sœurs bien-aimés, voici le temps favorable, le temps du salut. En ce mercredi, nous entrons avec toute l'Église dans le temps du carême, qui est comme le symbole même de notre vie ici-bas. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Le temps du carême est le temps de ce retour au bon Dieu. Un retour qui peut se faire dans les pleurs, à l'image du fils prodigue qui s'est gravement éloigné de Dieu. Lorsque le Seigneur nous raconte cette parabole, il veut nous manifester ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Alors que nous regardons le fils prodigue qui part dépenser sa vie dans une vie de désordre, nous voyons également le fils aîné qui ne se réjouit pas lorsque son frère qui a mené cette vie de désordre revient battre la coulpe devant le Père. Le Seigneur Jésus ne veut prendre en exemple ni le fils prodigue, ni le fils aîné. Il veut illustrer ce Père, lent à la colère, plein d'amour, qui attend, sans savoir ni le jour, ni l'heure, où son fils, qui est parti, reviendra vers lui. Et nous connaissons la fin de cette parabole, qui est vraiment ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Non seulement le Père est capable de reconnaître ce Fils qui revient, il est parti avec toute la superbe de l'argent, de l'héritage, de cette vie qu'il allait mener enfin libéré loin de Dieu son Père. Et il revient après avoir connu la famine, après avoir mené cette vie de misère. Voilà que Dieu, ce Père, ne l'attend pas pour lui faire la leçon. Il s'élance à sa rencontre, l'enlace et se réjouit. « Car, dit-il, mon fils que voilà était mort. Le péché a pour conséquence la mort. Mon fils que voilà était mort. Il est revenu à la vie. » Revenir à la vie, c'est l'image même de la résurrection. Ce Père très aimant qui s'élance à la rencontre du Fils prodigue et qui l'accueille, qui le couvre de baisers, qui lui rend cette alliance, qui le fait entrer dans sa maison, qui prépare pour lui le veau gras, c'est Dieu le Père qui décide par Dieu le Saint-Esprit de nous envoyer son propre Fils pour venir nous sauver. Saint Paul, qui dans ses prédications à l'exagération orientale, affirme « Dieu a fait pécher le Christ ». Non pas que le Christ ait commis un quelconque péché, il est étranger au péché. Mais voilà que le Christ, qui est cette offrande qui vient s'offrir en réparation par amour pour nous sur le bois de la croix, est identifié au péché. Saint Jean-Baptiste reconnaissait qu'il est l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde. Et Saint Paul de nous dire, lorsque ce Christ entre dans les eaux du Jourdain, il prend sur lui tous nos péchés. Eh bien, voilà qu'il est identifié au péché. Le mystère de la croix est bien grand. Si le Fils prodigue revient à la vie, le Christ est victorieux de nos péchés, victorieux du mal et victorieux de la conséquence du péché qu'est la mort. Il se relève le troisième jour et ressuscite d'entre les morts. Dieu, nous dit le roi David dans son psaume, réclame ta vie à la tombe. C'est dire que l'amour de Dieu, dont nous venons chacun et vers lequel nous retournons par notre vie, eh bien nécessite pour nous de prendre au sérieux cet amour divin. Cet amour divin qui doit passer au crible de la conversion. Il y a 15 jours, nous avons fêté Notre-Dame de Lourdes. Et je vous disais qu'elle a repris, non pas sur les bords du Jourdain, mais sur les bords du Gave, le ministère de Jean le Baptiste qui nous appelle à la conversion. Dimanche dernier, nous faisions mémoire de Sainte Bernadette, âme privilégiée de la Bigorre qui, à 18 reprises, dans ses extases, a vu cette très jeune demoiselle lui sourire, l'accueillir, l'inviter à entrer dans la grotte, qui va tracer sur elle le signe de la croix avec une gravité que Bernadette gardera toujours en mémoire. Chaque apparition, elle voit la dame et elle constate que si la dame est joyeuse, combien son visage est triste lorsqu'elle parle du péché et des pécheurs. Et je vous disais, Bernadette, au soir de sa vie, pourra dire ce qui devrait tous nous faire trembler. J'ai reçu tellement de grâces pendant ma vie et j'en ai si peu profité. En ce temps du carême, temps favorable de notre salut, comme le Fils prodigue, nous avons à entrer en nous-mêmes, car c'est là que va s'opérer la conversion. La Sainte Vierge le dit à Bernadette, « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. » Et ce temps de carême, de pénitence qui s'ouvre pour nous, nous concerne chacun, car nous devons opérer ce salut pour nous-mêmes, mais nous concerne tout autant chacun. Lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, lorsque nous faisons l'aumône, il ne s'agit pas seulement de nous, ou alors on n'a rien compris. Il s'agit de prier, il s'agit de faire pénitence, il s'agit de donner et même de se donner pour l'ensemble du corps du Christ que nous formons et qui est l'Église. L'Église se sanctifie chaque fois qu'un pécheur se sanctifie lui-même et cette sanctification rejaillit sur chacun d'entre nous. La conversion signifie donc revenir vers le Seigneur. Dimanche dernier, nous avons entendu avec quelle exigence le Seigneur nous rappelait les 10 commandements. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. L'accomplissement de la loi, c'est le Christ qui vient à nous sans retard, sans retour, par amour, pour nous sauver, chacun, pour te sauver. Pour entrer dans ce carême, je voudrais nous mettre chacun à l'école de saint Augustin. Non pas pour être à la mode pontificale, encore que, mais parce que saint Augustin vit en des temps barbares qui sont si proches des nôtres, nous qui avons quitté le régime de chrétienté. Saint Augustin est le fils de Monique. Monique a son cœur, son âme entièrement donnée à Dieu. Elle a pourtant vécu dans sa vie bien des épreuves, notamment celui de l'addiction à l'alcool. Elle s'en est relevée. Lorsqu'elle s'est convertie au Christ, alors qu'elle avait un époux païen et qu'elle vit mener son fils, elle n'a pas cessé de prier, de pleurer, de supplier le bon Dieu, de faire naître à la foi, à l'espérance, à la charité, et son époux et son fils. Et c'est au terme de sa vie, vie de persévérance d'une mère, qu'elle a obtenu et la conversion de l'un et de l'autre, jusqu'à même ce que son fils devienne prêtre, puis évêque. Augustin aimait particulièrement les très belles jeunes demoiselles. C'était un rhéteur, c'est-à-dire un orateur de grand talent. Il aimait lire, il aimait commenter, il aimait commenter tous les auteurs païens. Il aimait bien parler. Mais voilà qu'un jour dans sa vie, Dieu, le doigt de Dieu, vient le toucher de sa grâce puissante. Comme peut-être parmi nous, certains ont vécu une conversion radicale. J'étais étranger au Christ, et comme saint Paul sur le chemin de Damas, j'ai vu, et maintenant je crois. J'ai vu, peut-être pas le Christ en personne, mais j'ai ressenti dans mon âme qu'il était là, au plus profond de moi-même. Saint Augustin se convertit, et son regard alors se convertit. Il ne va plus seulement regarder les très belles jeunes filles comme l'objet de ses appétits, de ses poèmes, de ses flatteries. de son amour de la séduction et de ce qui va avec ensuite. Augustin va ensuite réordonner toute sa vie en plaçant Dieu au centre. Ah, il aimait la beauté des belles jeunes filles, mais maintenant, il s'est laissé toucher par une beauté plus ancienne et pourtant éternellement nouvelle. Je vais vous lire et vous commenter un extrait des Confessions de saint Augustin au livre 10, car je crois que vous allez saisir l'actualité de cette conversion qui nous concerne chacun. Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard, je t'ai aimé. Augustin en est au terme de son existence. Il prend son stylet pour écrire, pour revenir sur tout ce qu'a été sa vie. Où était donc le Seigneur dans sa vie lorsqu'il le cherchait? Il le confesse. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais, au-dehors. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, voyez comme il s'est bien parlé des jeunes filles, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, c'est-à-dire loin de la grâce, je me ruais, appétit insatiable. Tu étais avec moi. Augustin affirme que même lorsqu'il était éloigné dans sa conscience de Dieu, lui, Dieu, n'était pas étranger à Augustin, il était bien présent dans sa vie. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi ces choses qui pourtant, il réordonne tout en Dieu, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Et tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Quelle conversion vient d'opérer là Augustin. Lui qui a tellement péché par ses sens vient de reconnaître que dans sa conversion, Dieu est passé par chacun de ses sens. Et comme Élie, en haut de sa grotte, qui sait que Dieu va passer et qui se rend compte que Dieu n'est ni dans le fracas de l'orage, ni dans celui de la tempête, mais dans le murmure de la brise légère, eh bien Augustin est capable de comprendre comment Dieu, malgré son péché, est venu le chercher pour le relever. « Quand j'aurai adhéré à toi de tout mon être, poursuit Augustin, nulle part il n'y aura pour moi douleur et labeur, et vivante sera ma vie toute pleine de toi. » Car même au terme de sa vie, Augustin sait que cette conversion qui s'est opérée en son âme est toujours à accomplir jusqu'à se tenir en face de Dieu, en sa présence, au moment de notre mort où la foi fera place à la vision, où l'espérance fera place à la présence de Dieu et où seule demeurera la charité, cet amour qui nous unit à Dieu. Mais maintenant, poursuit Augustin, puisque tu allèges celui que tu remplis, n'étant pas rempli de toi, je suis un poids pour moi. Voilà ce que le pécheur expérimente. C'est qu'avec le bon Dieu, la vie est bien plus légère et qu'avec le péché, tout devient un poids pour nous-mêmes, un poids, une carcasse qu'il faut déplacer, une vie qui manque de la sève surnaturelle pour laquelle nous avons été créés. Et alors Augustin parle de cette lutte qui a été celle de son péché. Il y a lutte entre mes joies, dignes de larmes, et les tristesses, dignes de joie. Voilà par quels sentiments, frères et sœurs, nous allons passer en ce temps du carême. Le carême, ce n'est pas facile, c'est la traversée du désert, c'est le combat spirituel. Il y a une lutte entre nos joies dignes de larmes et les tristesses qui, elles, sont dignes de joie. De quel côté se tient la victoire ? S'interroge Augustin. je ne sais. Car au moment du combat, on ne sait plus où on va, où on est. Mais le Christ demeure avec nous. Je ne sais, il y a lutte entre mes tristesses mauvaises et les bonnes joies. Et de quel côté se tient la victoire, je ne sais. Ah, malheureux Seigneur, aie pitié de moi. Ah, malheureux, voici mes blessures, je ne les cache pas. Voilà quel sentiment doit nous animer ce soir et tout au long de ce carême. Se présenter au Seigneur tel que nous sommes, pauvres pécheurs, infatigables pécheurs, mais confiants dans la miséricorde de Dieu. Nous présentons chacun nos blessures au Seigneur, il les connaît, et Augustin de dire « Tu es médecin, je suis malade, tu es miséricorde, je suis misère. » Les cendres, frères et sœurs, que nous allons recevoir sur notre front sont l'image de cette misère. Nous nous souvenons que nous sommes poussière, que nous retournons à la poussière, mais plus essentiellement que nous venons de Dieu et que nous retournons à Dieu, et que de cette poussière de notre vie, par laquelle le Créateur a façonné Adam pour nous rappeler que nous sommes enracinés sur cette terre, nous sommes debout parce que par notre tête nous prétendons au ciel. Les pères de l'Église s'interrogent en se demandant pourquoi, après tout, en liturgie, ne mettrions-nous pas les cendres sur les mains, sur les pieds, sur je ne sais quelle autre partie du corps. Non, nous recevons ces cendres sur notre front parce que le combat du carême est celui de notre volonté. La volonté doit être du côté de Dieu. Et c'est très difficile de commander une volonté qui n'est pas ordonné à Dieu. Alors nous demandons le secours, comme Augustin, de sa grande puissance. Enfin, Augustin termine, « N'est-elle pas une épreuve, la vie humaine sur la terre ? Et mon espérance est tout entière, uniquement dans la grandeur immense de ta miséricorde. Donne ce que tu commandes, Seigneur, et commande ce que tu veux. Ô amour qui toujours brûle et jamais ne t'éteint, ô charité, mon Dieu, embrase-moi. » Eh bien, puisse donc, frères et sœurs, le Seigneur nous embraser chacun de sa lumière, nous passer au feu de sa miséricorde, et qu'au dernier jour, il puisse nous dire, comme dans sa parabole, « Entre maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton Maître. » Et enfin, Augustin, dans un autre extrait de ses œuvres immenses, aimait toujours à dire que si le Christ ne nous trouve pas dans la Cité Sainte parmi les vainqueurs, les saints, à l'image du bienheureux Pascal Vergès, qui immédiatement après leur mort sont entrés dans la joie du ciel, si le bon Dieu ne te trouve pas parmi les vainqueurs, qu'il te trouve au moins parmi les combattants. Eh bien voilà ce combat spirituel qui commence pour nous ce soir. Nous nous présentons au Christ avec chacune de nos blessures et nous avons recours à lui qui est le vrai médecin de nos âmes. Et comme l'a dit Augustin, voilà que nous demandons au Seigneur de nous donner ce qu'il nous commande. Alors le bon Dieu pourra commander ce qu'il veut, puisque ce carême, c'est l'adhésion de notre volonté au règne de Dieu. Puisse-t-il triompher en chacun d'entre nous comme il triomphe du mal, ainsi soit-il.